Tu peux mettre la première, Pedro? Faut-il plutôt jeûner ou plutôt déjeuner? Comme annoncé, je vous propose de poursuivre un peu et terminer cette petite réflexion qui reste, je ne sais pas s'il faut dire superficielle, mais en tout cas partielle dans ces réflexions qu'on a commencées le mois dernier. Et je rappelle les éléments principaux déjà abordés. Et premièrement, sauf erreur de ma part, je disais qu'il n'y a a priori pas dans la Bible de commandement à jeûner, mais en Israël, effectivement, des jeûnes ponctuels ou réguliers, individuels ou collectifs qui ont été pratiqués, même ont été institués. Et comme on l'a vu, certains ont été agréables à Dieu, agréés par Dieu, et d'autres pas. Et une considération principale à cet égard, la principale probablement, en tout cas à mon avis, c'est la motivation, l'intention de ce jeûne, la disposition de cœur. Ainsi, toutes les pratiques religieuses, juste par tradition, les pratiques avec une connotation méritoire, qui sous-tendrait que Dieu serait alors un peu plus obligé d'être attentif, d'être plus à mon écoute, d'être plus obligé de répondre. Les pratiques que l'on nous imposerait ainsi, ou même que l'on s'imposerait à soi-même, comme les pratiques faites pour ou à cause du regard des autres, ne sont, on s'en doute bien, pas celles que Dieu agrée. Nous ne pouvons pas obliger Dieu, jamais, et aucune pratique spirituelle ne peut être pour se grandir à ses yeux ou aux yeux des autres, on le sait. C'est valable pour toute pratique, comme c'est valable pour le jeûne. En toute chose, examinons donc nos intentions, nos motivations, notre cœur. Et deuxièmement, j'avais souligné un point plus délicat, que certaines mentions du jeûne dans certaines de nos traductions du Nouveau Testament étaient probablement, alors ça c'est mon point de vue, peut-être, on peut dire, en tout cas, des rajouts tardifs au fil des siècles, de copies et de recopies des manuscrits, peut-être sous l'influence d'une tradition chrétienne qui avait fait la promotion du jeûne au fil de son histoire. Mon humble avis, en tout cas, mais vous pouvez bien sûr avoir des avis différents. Ce n'est pas grave, mais ce que je veux ressouligner ce matin, hein, c'est que ce que j'appellerais des erreurs de copistes, et il peut y en avoir dans les manuscrits, ça ne remet pas en cause, en tout cas, toute l'inspiration divine de la Bible, hein, et son inhérence, le fait qu'elle ne contienne pas d'erreurs. Et on peut de fait s'émerveiller de l'incroyable préservation du texte biblique au fil des siècles. Et il y a assurément eu la main de Dieu derrière cela, protégeant, préservant le texte. Et ainsi, s'il y a des différences possibles entre certains manuscrits, elles sont toujours marginales et ne concernent jamais les doctrines fondamentales que nous révèle la parole. Ainsi, il n'y a aucun doute quant à la question qui est Dieu, ce Dieu trinitaire, aucun doute quant à Jésus-Christ, le Fils qui s'est fait homme pour venir jusqu'à nous pour nous sauver, aucun doute quant au salut par grâce, la foi en son sacrifice. Tous ces essentiels, la révélation, pour tous ces essentiels, la révélation est claire et unanime. Enfin, je ne m'étends pas davantage là-dessus, mais désolé si j'ai pu troubler certains, mais en tout cas, venez me voir, on peut en discuter, hein, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais voilà. Je ne sais pas si on peut dire un pourcentage, mais 99,9% du texte est avéré, et après, voilà, il y a des petites choses où il peut y avoir questionnement, mais ça ne remet pas du tout en cause l'essentiel de notre foi. Pour ce matin, je propose deux parties avec deux questions, voilà, avec des éléments de réponse auxquels moi je crois. Après, voilà, on peut avoir d'autres réponses, hein. Le jeûne est, me semble-t-il, quelque chose qui n'est pas premier dans la foi chrétienne, mais qui n'est pas nécessairement non plus aux oubliettes. Faut-il jeûner? Et le cas échéant, que peut être le jeûne? Alors, ça marche ou ça marche pas, ça? Ça marche pas. Ça marche. Quelques exemples d'abord dans le Nouveau Testament. J'avais évoqué donc certains la dernière fois, plus ceux où il y avait eu polémique entre Jésus et les autres à propos du jeûne qu'il pratiquait ou ne pratiquait pas plutôt avec ses disciples. Mais voilà, mais il y a d'autres passages, et trois en particulier, qui effectivement mettent en avant des pratiques de jeûne. Le premier, dans Luc, au chapitre 2, Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel de la tribu d'Asser. Elle était très avancée en âge. Après avoir vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité, elle était restée veuve. Âgée de 80 ans, elle ne s'éloignait pas du temple et prenait part au culte, nuit et jour, par des jeûnes et des prières. Le jeûne comme élément possible de culte envers Dieu. D'autres traductions disent plutôt « elle servait Dieu, nuit et jour, par le jeûne et la prière ». On a déjà pu voir par le passé que servir Dieu et lui rendre un culte veulent en effet a priori dire quelque chose de similaire, et en tout cas traduisent le même mot. Pas de jugement de valeur explicite dans ces versets, mais nul doute que ce que la prophétesse Anne faisait était agréé et agréable à Dieu. Et c'est bien ce qui lui vaut cette mention dans la Bible, mention restée à la postérité. Prendre part au culte par des jeûnes et des prières. Ensuite, dans le livre des Actes, au chapitre 13, il y avait alors dans l'église d'Antioche, donc c'est le Antioche de Syrie, enfin Antioche de Syrie à l'époque, c'est cette ville actuellement tout au sud de la Turquie qui a été quasiment rasée il y a le mois dernier par ce tremblement de terre terrible, hein, si vous avez entendu parler. C'est cette ville-là dont on parle, qui était à l'époque une des villes les plus importantes de l'Empire romain. En tout cas, au Moyen-Orient, c'était plus important que Jérusalem, hein, en taille de ville, Antioche de Syrie. Il y avait là-bas des prophètes, des enseignants, Barnabas, Siméon, nommé le Noir, Lucius, originaire de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le gouverneur, et Saul. Un jour qu'ils adoraient ensemble le Seigneur et qu'ils jeûnaient, d'autres traductions auront « pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient » ou encore « pendant qu'ils servaient le Seigneur et jeûnaient » ou encore « pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient » l'Esprit Saint dit « mettez-moi à part Barnabé et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. On peut voir, d'après les différentes traductions, que le contexte exact de ce jeûne peut être compris de manière un petit peu différente, mais il y avait en tout cas un groupe de personnes rassemblées, peut-être toute l'église d'Antioche, on ne sait pas exactement. Et en tout cas, Dieu, le Saint-Esprit, a utilisé cette occasion particulière pour s'exprimer. On ne sait pas s'ils l'auraient fait s'ils n'avaient pas jeûné ou s'ils n'avaient pas prié. En tout cas, cet effet à ce moment-là, sans qu'on puisse nécessairement affirmer qu'il y a un lien de cause à effet, mais peut-être. Et en tout cas, pas plus de détails non plus sur la façon exacte dont le Saint-Esprit a parlé. Ce qui est sûr, c'est que c'était clair pour tous. Était-ce audible ? Était-ce une conviction commune ? Ça, je ne sais pas. C'est un autre sujet, en tout cas. Mais en tout cas, servir et jeûner, tel était ce qu'il faisait dans cette église d'Antioche, à cette occasion-là, en tout cas. Et un peu plus loin, acte 14. Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville, donc la ville de Derbe, au sud de la Turquie actuelle, et fait bon nombre de disciples, donc là on parle de Paul et de Barnabas, justement ceux qui ont été envoyés suite à ce qu'on a vu dans le chapitre 13, missionnaires mis à part au chapitre précédent, on est ici au cours de leur premier voyage missionnaire dans ce qui est actuellement donc le sud de la Turquie. Donc ils retournèrent à Lystre, à Iconium, à Antioche, donc pour le coup c'est le même nom, mais ce n'est pas la même ville, c'est une autre Antioche, c'est Antioche de Pisidie, qui est dans le centre-sud de la Turquie, notre ville de la région. Donc. Ils affermissaient les disciples et les encourageaient à demeurer dans la foi, en disant « il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu ». Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église, et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Voilà, le jeûne, pratique occasionnelle, pratique régulière, pratique individuelle, pratique communautaire. Faut-il y voir quelque chose de normatif ? Moi, je pense que non, mais on peut penser différemment. Car quand même, selon ce texte, Paul et Barnabas semblent avoir prié et jeûné dans les trois églises, de Lystre, Iconium et Antioche, pour la désignation des anciens. Effectivement, ils ont jeûné. Et ça semble donc effectivement être une pratique courante qu'ils avaient à l'époque, en tout cas. Et pour ce qui est du contexte, pour être exact, le verset 23 nous dit que, c'est le temps des verbes en grec qui est précis pour cela, la désignation des anciens a eu lieu avant le prière et le jeûne. Donc si jamais on comprend que c'est pour, il faut prier et jeûner pour désigner tel ou tel, ce n'est pas nécessairement, en tout cas sur la base de ce texte-là, qu'on peut le faire. Mais voilà, en tout cas, on peut dire qu'il y a des occasions rapportées effectivement dans la Bible où les premiers chrétiens avaient apparemment une certaine habitude de jeûner dans le cadre du culte, a priori. Mais voilà, en tout cas, outre les controverses concernant Jésus et ses premiers disciples, on a mentionné la fois passée, outre les versets dont la mention est peut-être un rajout, en tout cas, donc il y a des différences de point de vue, sauf erreur de ma part, ce sont les trois seules occurrences explicites et certaines de la pratique du jeûne volontaire dans le Nouveau Testament. Et c'est pour cela que, combien même la pratique est peut-être fréquente, je crois pouvoir dire que ce n'est pas quelque chose de normatif. Je pense que la parole serait plus directive, comme elle l'est pour bien d'autres choses, comme la prière, l'aumône, le soutien fraternel, la communion, le partage, l'enseignement, l'annonce de la bonne nouvelle, et plein d'autres choses encore, pour lesquelles il y a vraiment un ordre explicite. Mais pour le jeûne, aucun ordre, aucune interdiction non plus d'ailleurs. Et sans être directif, les exemples sont bel et bien là, pour en tout cas être informatifs, et peut-être même pour servir d'exemple, c'est le principe d'un exemple, peut-être nous pousser à l'interrogation, à la réflexion. Faut-il jeûner ou plutôt déjeuner? Alors, je ne vais pas donner de réponse directive non plus, hein. Désolé pour celles et ceux qui auraient aimé plutôt non ou plutôt oui. Je dirais, surtout, je pense qu'on ne doit pas jeûner, dans le sens qu'on peut jeûner, mais le jeûne ne doit pas être, il peut être. C'est une liberté qui nous est offerte, je pense, et pas une obligation qui nous est demandée. Une liberté qui nous est offerte et pas une obligation qui nous est demandée. Et lors des discussions qu'on a eues le mois dernier dans notre groupe de maison sur le sujet, quelqu'un disait « je ne vois pas l'intérêt de jeûner ». Le mot est juste. Je crois effectivement que ce n'est pas une histoire d'intérêt. Pas une histoire de mimétisme pour se dire eh ben, on va faire la même technique qui semble marcher pour la reproduire. C'est pas une histoire de devoir, c'est d'un autre ordre. J'insiste un peu là-dessus, hein, car je crois qu'on peut, et on le voit dans malheureusement beaucoup d'occurrences, qu'on peut rapidement dévier de l'intention première, je pense, du jeûne. Que le jeûne soit une pratique volontaire sur la base d'une conviction, c'est ça qui me semble essentiel. Quelque chose que l'on peut avoir à cœur, que Dieu peut nous mettre à cœur. Et personnellement, je pense que c'est là la bonne focalisation, la bonne réflexion, la bonne interrogation. Avant tout, une histoire de conviction. Conviction personnelle ou conviction collective. Et ainsi seulement faut-il décider, je pense. Chacun peut avoir sa propre opinion sur ce point secondaire de la foi et de la vie chrétienne. Qu'est-ce que le Seigneur vous met à cœur? Qu'est-ce que le Seigneur me met à cœur? Qu'est-ce que le Seigneur nous met à cœur? Et il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse de principe. Alors ne nous permettons pas de juger l'autre ou les autres dans ce qu'ils feraient ou ne feraient pas. Moi, je crois que c'est là l'essentiel pour nous, ce qui nous est demandé. Voilà, donc pas de réponse claire ou précise pour « faut-il jeûner ?» Mais pour terminer cette première partie, je pense que je lirai un passage de la lettre aux chrétiens de l'église de Rome. Ça ne traite pas exactement du jeûne, mais aussi d'un problème alimentaire qu'il y avait au sein des chrétiens à l'époque. Ça parle d'abstinence et de prévenance aussi. De l'état d'esprit de cœur et de l'état d'esprit et de cœur attendu des chrétiens. En cela comme en toute autre chose. Et là, je ne crois pas, j'en suis sûr. Effectivement, c'est quelque chose qui nous est demandé. En particulier si on considère cette question du jeûne, mais pour d'autres choses aussi. Romains chapitre 14, à partir du verset 15. Si donc à cause d'un aliment, tu fais du tort à ton frère, tu ne te conduis pas selon l'amour. Ne va pas pour un aliment causer la perte de celui pour qui le Christ est mort. fort hein, dans ces mots, hein. Paul, quand il parle. Que ce qui est bien pour vous ne devienne pas pour d'autres une occasion de dire du mal de vous. Car le règne de Dieu ne consiste pas à réglementer le manger et le boire, mais par l'Esprit Saint à nous rendre justes et à nous donner la paix et la joie. Celui qui sert le Christ de cette manière est agréable à Dieu et estimé des hommes. Ainsi donc, cherchons toujours à ce qui contribue à favoriser la paix et à nous faire grandir les uns les autres dans la foi. Ne va pas pour un aliment détruire l'œuvre de Dieu. Tout est pur, c'est vrai, mais il est mal de manger tel aliment si cela risque de faire tomber quelqu'un dans le péché. Ce qui est bien, c'est de s'abstenir de viande, de vin, bref, de tout ce qui peut entraîner la chute de ton frère. Garde tes convictions pour ce qui te concerne devant Dieu. Heureux celui qui ne se condamne pas lui-même par ce qu'il approuve. Mais celui qui a des doutes au sujet de ce qu'il mange est condamné parce qu'il n'agit pas par conviction. Tout ce qui n'est pas le produit d'une conviction est péché. Un autre contexte, là c'était par rapport aux viandes qui étaient sacrifiées aux idoles, parce que je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas de boucherie. On n'allait pas au supermarché, au rayon boucherie, pour acheter de la viande. La seule viande qui était disponible sur le marché, c'est de la viande qui avait été utilisée pour faire des sacrifices à des divinités. Paul dit, c'est pas un problème d'en manger. Mais Paul dit, si c'est un problème pour ton frère ou ta sœur d'en manger, alors t'en manges pas pour le provoquer ou pour être une occasion de problème avec lui. Et je pense qu'on peut étendre ce genre de réflexion aux jeunes aussi. Tant pour ceux qui le font, tant que pour ceux qui ne le font pas. Ayons, à travers une conviction, une demande de conviction aussi de la part de Dieu, et que le Seigneur bénisse, que le Seigneur bénisse celui qui a la conviction de jeûner, et que le Seigneur bénisse celui qui a la conviction de ne pas le faire. Et si, à un moment ou à un autre, votre conviction personnelle dépasse votre cadre personnel et concerne peut-être un groupe ou l'assemblée, et on en parle, on prie ensemble pour considérer cela et voir ce qu'il convient de faire en toute liberté. En tout cas, comme nous y invite Paul, désirons et grandissons les uns et les autres dans la foi. Soyons dans la paix et dans la joie et recherchons cela toujours les uns par rapport aux autres. Ceci étant, que peut être le jeûne ? Que peut être le jeûne ? Que peut-il concerner ? Quelles circonstances ou quelles raisons peut-il avoir ? Dans les exemples bibliques, je vois différents éléments possibles, et ma liste ne sera certainement pas exhaustive. Dans l'Ancien Testament, on voit surtout souvent un élément de deuil. Pas nécessairement deuil comme la circonstance douloureuse du décès d'un être cher où il faudrait jeûner. Mais deuil dans le sens où des circonstances difficiles, douloureuses, font que le cœur n'est pas à la fête. À titre d'exemple, Daniel est ainsi touché par la vision d'événements dramatiques que Dieu lui révèle. Difficile privilège qu'il avait des fois. Alors que Daniel est déporté à Babylone depuis un certain temps, qu'il travaille dans l'administration royale, un poste tranquille et certainement très confortable, ces révélations d'événements extérieurs le touchent. Et il a envie, il a cette conviction qu'il doit jeûner. Et ainsi, durant la troisième année du règne de Cyrus, empereur de Perse, un message fut révélé à Daniel. Cette révélation est authentique, elle annonce de grandes calamités. Daniel fut attentif à la parole et il en reçut la compréhension dans une vision. En ces jours-là, moi, Daniel, je fus 3 semaines dans le deuil. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche et je ne me parfumais pas jusqu'à ce que les 3 semaines soient accomplies. Jeûne volontaire de certaines choses, et il est intéressant de noter qu'en l'occurrence c'est un jeûne partiel seulement, et un jeûne pas que alimentaire, expression de sa tristesse à l'annonce de certaines choses terribles. On notera aussi, là encore, que le texte n'exprime aucun jugement de valeur sur ce choix de Daniel, c'est juste relaté. Ceci dit, je crois que Dieu honore cet esprit, faut-il dire, de solidarité, peut-être d'empathie de la part de Daniel. En tout cas, un sentiment noble, une réaction belle. Et je vois aussi cet aspect-là, cette motivation-là, dans la démarche de la reine Esther et des Israélites. Alors c'était plus eux, là, pour le coup, qui étaient potentiellement, et même très probablement, allés subir des situations terribles. Et ils décident donc de jeûner, aussi dans cet esprit de deuil, quelque part, de tristesse. Élément de deuil dans le jeûne, élément aussi fréquent dans l'Ancien Testament de repentance dans la pratique du deuil. Et là, les exemples sont nombreux. Et c'est notamment le cas dans l'unique passage que j'avais mentionné la dernière fois, où l'appel du jeûne provient de l'Éternel, dans le livre du prophète Joël. Le jour de l'Éternel est grand et terrible à l'extrême. Qui pourra l'endurer ? Mais maintenant encore, l'Éternel le déclare, « Revenez donc à moi, revenez de tout votre cœur, avec le jeûne, avec des larmes et des lamentations. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, et revenez à l'Éternel, lui qui est votre Dieu. Car il est plein de grâce, il est compatissant et lent à la colère, il est riche en amour et il renonce volontiers au malheur dont il avait menacé. » Un jour interviendra un jugement. Jugement de tout le mal commis par les humains. Un jour qui devrait faire peur. Mais avant ce jour terrible, Dieu offre la possibilité de se repentir, de reconnaître ses propres fautes, et Dieu offre sa grâce, son pardon. C'est ce qu'il veut avant tout pour chacun et chacune d'entre nous, pour l'humanité entière. Chacun a la responsabilité de saisir ou de ne pas saisir l'opportunité. Élément de repentance dans le jeûne. Certainement parce qu'il y a là, sans doute, une reconnaissance factuelle qu'au-delà de notre dépendance de la nourriture et de la boisson pour vivre et pour survivre, et nous savons tous que c'est une réalité très concrète, sans nourriture, et a fortiori sans boisson au bout d'un moment, assez rapidement même, nous mourrons. Eh bien, nous avons encore plus besoin de Dieu. Nous avons encore plus besoin de Dieu que de nourriture et de boisson. Sans Dieu, nous sommes morts. Déjà morts. Spirituellement morts. C'est une réalité. Nous dépendons de Dieu pour survivre et pour vivre concrètement. Car Dieu est celui qui pourvoit à tous nos besoins physiques. Ou bien même nous n'avons peut-être pas conscience. Mais bien plus important encore, plus essentiel encore, Dieu seul donne la vie, la vraie vie, la vie spirituelle, la vie éternelle, seule possible en Jésus-Christ, on l'a rappelé tout à l'heure. Et le jeûne peut symboliser, matérialiser, entre guillemets, cette compréhension-là. Et je pense alors que c'est effectivement une bonne chose. Pour montrer, se rappeler qu'effectivement, nous connaissons et nous reconnaissons vouloir dépendre de Dieu, bien plus que de dépendre de tout ce qui nous est essentiel et vital. Certains voient ainsi dans le jeûne un certain désapprentissage du monde, de l'amour du monde, de la dépendance du monde, une désaccoutumance en quelque sorte. Je ne sais pas si j'irai jusqu'à donner cette vertu-là aux jeunes, mais je peux comprendre leur logique dans cette démarche. Cela donne du sens à certains jeunes, en effet. Pas nécessairement que de nourriture, d'ailleurs. Mais il y a des temps pendant lesquels des gens décident de se passer de télévision, ou de téléphone, ou de voiture, ou de toute autre chose comme ça, dont ils pensent peut-être trop dépendre. Comme dans le livre des Actes et de Luc qu'on a lu, il y a aussi des aspects peut-être un peu plus lumineux, si je peux utiliser ce mot-là, concernant le jeûne, qui évoque le culte, l'adoration. Et assurément, un élément cultuel que peut avoir le jeûne, sans qu'il y ait nécessairement là un élément de contrition. Personnellement, je perçois aussi une joie de la dépendance première de Dieu dans cette pratique du jeûne et de la communion avec Dieu. sans que je me répète que ce soit un must ou un plus. Ce n'est pas toujours évident pour cependant de comprendre la motivation et le cheminement intérieur avant, pendant ou après le jeûne, en tout cas parce que dans les textes bibliques qui relatent le jeûne, ce n'est que narratif. Ils nous relatent des faits sans jugement de valeur, comme je l'ai déjà dit, et sans explication. Alors, quelle motivation? Quel cheminement? On ne sait pas trop exactement, et pourtant on peut lire des tas d'articles ou de livres hein, où il y a beaucoup, je trouve, d'extrapolations et d'interprétations sur le pourquoi, les comment et les parce que de telle ou telle pratique qu'on peut, voir dans la Bible, notamment sur ces passages des Actes, avec des tas de déductions sur ce que l'Église devrait faire ou ne pas faire. Bon, moi, je n'arrive pas à lire entre les lignes comme ça, donc je ne vais pas les formuler, mais... Une pratique qui se faisait, effectivement, mais... On n'a pas trop le détail du pourquoi. Et en tout cas, Dieu ne le demande pas vraiment, mais en même temps, Dieu y prend plaisir. Certains voient le jeûne aussi comme un élément particulier, voire privilégié, de recherche de la volonté divine, ou de manifestation, de soumission à la volonté divine. Et que Dieu les bénisse dans cette démarche. Pour certains, en effet, le jeûne est une aide à la réceptivité, une aide à l'écoute de Dieu. Je cite quelqu'un qui dit que cela consiste aussi à se concentrer sur l'essentiel et à prendre ses distances de ce qui est secondaire. Et on peut tout à fait comprendre et même dire d'accord avec cette démarche. Le jeûne peut être ça. Pour d'autres, c'est tout le contraire. Le jeûne les empêche d'être réceptifs. Le jeûne les empêche d'être à l'écoute. Et c'est vrai que c'est peut-être pas évident de se concentrer si on a le ventre qui gargouille. Ou si on se sent en hypoglycémie. Faut-il dépasser un certain stade? Les premières heures ou le premier jour? C'est possible. Mais en écho au passage de Romains, en tout cas que personne ne l'affirme de façon condescendante envers un frère ou une sœur, comme s'il manquait quelque chose à ce frère ou à cette sœur s'il ou elle ne pratique pas le jeûne, ou s'il ou elle n'arrive pas, pire, à pratiquer le jeûne. Y a-t-il une problématique de maîtrise de soi? Peut-être des fois. Mais moi, je reviens toujours et encore à la motivation, à la conviction. Les conditions particulières des uns et des autres doivent aussi être prises en compte. Je prends un exemple trivial, peut-être. Voilà. Une personne diabétique qui a certainement plus de difficultés qu'une autre à pratiquer le jeûne. Est-elle moins bonne chrétienne et moins spirituelle que celui qui le pratique? On sait bien que non, la question ne se pose pas en ces termes. L'auteur chrétien John Piper, vous avez peut-être lu quelques livres, écrit à juste titre que la pratique du jeûne n'est pas distinctement chrétienne, pas plus qu'elle n'est distinctement spirituelle. On trouve ainsi de tout dans les livres ou sur Internet en ce qui concerne le jeûne. Et je mettrai un peu en garde contre une certaine compréhension qui me semble un peu incorrecte des vertus du jeûne qui dirait que, là c'est une autre citation, « Le jeûne, disent-ils, vide l'être et l'espace ainsi créé peut se remplir de choses essentielles et vraies. » C'est une simple équation. Le jeûne libère, le jeûne apaise, le jeûne guérit, le jeûne régénère. Est-ce le cas? Moi je trouve que ce n'est pas vraiment le cas parce que si on comprend le jeûne ainsi, il y a une certaine tendance à une philosophie sous-jacente qui ne me semble pas être le message de la Bible. Dieu ne nous demande pas, en effet, de nous vider. Combien même, il y a des tas de choses dont il doit faire le ménage dans nos vies. Hein. C'est pas ce que je ne veux pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais ce n'est pas de nous vider, essentiellement, que la Bible nous parle. Et en tout cas, pas se vider soi-même par une pratique possiblement vertueuse ou un effort personnel. Je pense que Dieu, principalement, nous demande de reconnaître notre entière dépendance de lui, on l'a déjà évoqué, et de lui seul, et de le laisser prendre toute la place en nous. Et lui, il fera le ménage avec notre accord et des fois avec notre collaboration. C'est un peu un mécanisme inverse. Et c'est vrai que le jeûne, il y a peut-être une certaine propension venant un peu des pensées orientales dans la compréhension du jeûne de quelque chose pour s'élever vers Dieu. Et en tout cas, dans notre pratique chrétienne du jeûne, il ne doit pas avoir ça. On ne s'élève pas vers Dieu avec le jeûne. Dieu est venu jusqu'à nous. Et voilà, c'est subtil. Des éléments juste de réflexion pour vous. Il n'y a pas de, dans ce que je dis, de choses absolues. C'est juste voilà, des éléments de réflexion, si on le fait ou si on ne le fait pas, pour se questionner sur l'intention, sur le pourquoi, sur qu'est-ce que j'en comprends. Je conclue par ce que j'avais dit déjà la dernière fois. Que peut être le jeûne ? Je reprends ce passage de chapitre 58 d'Ésaïe, que j'avais déjà mentionné, qui peut sembler totalement hors sujet. Mais bon, en même temps, comme c'est Dieu qui dit « voilà le jeûne que je préfère », je vous arrangerai avec lui si vous êtes d'un point de vue différent. Un passage écrit, je rappelle, 700 ans avant Jésus-Christ. Je lis à partir du verset 3 du chapitre 58, ce sont des plaintes du peuple qu'ils adressent contre Dieu, et c'est lui qui le tutoie en disant « Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas ? Pourquoi nous humilier si tu n'y prends pas garde ?» Et la réponse de Dieu est « Au jour où vous jeûnez, vous traitez vos affaires et vous exploitez tous vos ouvriers. » Donc un jeûne où il n'y a pas particulièrement une consécration, et où il y a peut-être même contradiction entre certaines exactions qu'ils peuvent faire vis-à-vis des autres et l'intention qu'ils ont devant Dieu. Vous passez votre jeûne en procès et querelle et en frappant du poing avec méchanceté. Ce n'est pas par des jeûnes comme ceux d'aujourd'hui que vous ferez entendre vos prières là-haut. Est-ce que le jeûne fait mieux entendre les prières par Dieu ? En tout cas, il y en a certains que non, ça c'est sûr, le passage le dit. Est-ce cela le jeûne auquel je prends plaisir ? Est-ce cela un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de te courber la tête comme un jonc et de vous étaler sur le sac et la cendre ? Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée ? Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres, sans abri. C'est donner des habits à ceux que l'on voit nus, ne pas te détourner de ton prochain. Alors, comme l'aurore jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. Oui, alors la justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra. Quand tu crieras à l'aide, il dira « Je suis là ». Le jeûne. Ce n'est certainement pas simplement se priver de manger ou de boire quelque temps. Le concept est beaucoup plus vaste, plus riche, selon le point de vue même de Dieu. Jeûner, c'est mettre en œuvre la bonté là où il y a la méchanceté. Jeûner, c'est pratiquer la justice et donner la délivrance, agir contre l'oppression et la servitude. Et même dans notre société moderne aujourd'hui, oppression et servitude existent encore bel et bien sous bien des formes. Agissons personnellement contre cela, agissons collectivement contre cela. Ne soyons pas indifférents ou ne croyons pas inutile ce qu'on pourrait faire, même si ce que nous pouvons faire ne sera peut-être qu'une goutte d'eau dans l'océan. Les petits ruisseaux font les grandes rivières, dit aussi notre expression. C'est vrai qu'à titre personnel, mon combat et ma priorité, et même en tant qu'Église, je crois, est d'abord et avant tout contre le péché, contre la servitude spirituelle. Et donc peut-être d'abord l'annonce et le partage de l'Évangile. Mais on le sait, bien évidemment, cela ne peut pas être hors sol. Cela ne peut pas juste être de la belle théorie ou de la belle théologie. Cela passe assurément et également par le soulagement concret des conséquences du péché dans la vie des gens. Par l'entraide, le soutien, la visite, l'aide pratique, l'intervention et l'intercession concrète envers les frères et les sœurs ici ou à d'autres endroits du monde, par le soutien de ceux qui y agissent. Envers les faibles de la société, ici ou plus loin aussi. Partage ton pain. Moi, j'aime bien cet aspect du jeûne. Si on jeûne, on n'a pas cuit de pain. Mange et partage ton pain. Ça, c'est un bon jeûne. Voici ce que dit Dieu. Qui montre aussi bien que le jeûne qui montre ainsi aussi bien que le jeûne ne le sert pas lui, mais peut servir aux autres. Exerce l'hospitalité. Aide ton prochain, aime ton prochain. On peut ainsi jeûner tous les jours, tant les besoins sont là. Et curseur pas toujours évident encore à placer, jusqu'où aller ? On ne pourra jamais soulager toute la misère du monde. Non, c'est vrai, d'ailleurs nous ne sommes pas les sauveurs du monde. Mais le sauveur du monde que nous devons aussi partager, Dieu, souligne, souhaite nous utiliser dans notre quartier, notre voisinage, notre ville. Et on peut me soutenir d'autres ailleurs, plus loin. Le jeûne, ce n'est ni du spirituel déconnecté des réalités, ni du social ayant perdu son âme, mais soutien et action spirituelle sous toutes leurs formes. Partager le salut en Jésus-Christ, partager le pain, le toit, le vêtement. Tout cela est spirituel, tout cela est le jeûne qui plaît au Seigneur. Prenons-y plaisir aussi. Oui, Seigneur, j'ai bien compris que ce jeûne-là, je pouvais le pratiquer. J'ai bien compris que ce jeûne-là, tu voulais que je le pratique. Aide-moi à m'y engager personnellement, à nous y engager en tant qu'Église. Et merci d'ailleurs à chacun et chacune déjà pour ses implications en la matière. Que le Seigneur nous vous y encourage et nous guide encore davantage. Amen. Voilà. Je ne sais pas si c'était satisfaisant sur le jeûne, mais je ne vous laisse pas sur votre faim à ce sujet. Je vous invite à prier. Seigneur, merci parce que le fait de te connaître peut se décliner de mille et une façons. Ça peut être par le jeûne, effectivement, mettre du temps à part ou volontairement on se restreint ou prive de quelque chose pour te mettre à la première place. Ça peut ne pas être ça. C'est en tout cas reconnaître notre dépendance chaque jour et chaque instant de toi et de toi avant toute autre chose. Même les choses qui nous semblent vitales et essentielles, rien ne compte, rien n'est comparable par rapport à toi. C'est de toi dont nous avons fondamentalement besoin pour nos vies ici-bas et bien sûr pour la vie éternelle. Merci Seigneur aussi de nous montrer que ce qui te plaît comme jeûne, avec ce partage, aider les gens à sortir de la servitude, avec assurément une dimension matérielle, pratique, concrète, aussi certainement premièrement une dimension spirituelle aussi. Tant de gens sont encore dans la servitude du péché. Et nous peut-être, c'est quelque chose aussi qui nous gêne ou perturbe régulièrement. Merci Seigneur de cet exemple de solidarité, d'action commune et personnelle que l'on peut avoir. Change nos cœurs Seigneur, fais-nous grandir dans cet amour de l'autre, dans cette recherche de la paix, dans cette envie de grandir les uns et les autres, comme nous y sommes aussi invités. Aide-nous Seigneur à ne pas juger celui qui fait ou celui qui ne fait pas, celui qui fait autrement, celui qui a cette conviction ou autre, etc. Mais donne-nous, Seigneur, toujours ce cœur commun de vouloir te servir, de vouloir servir les uns les autres dans l'Église et vouloir servir au-delà de nos murs. C'est ainsi que nous te rendrons culte aussi, c'est ainsi que nous te servirons également. Oui, Seigneur, anime-nous vraiment par ton esprit, remplis-nous vraiment par ton esprit, pour que nous ayons toujours cet état de cœur et cette volonté ainsi de briller pour ta gloire et ta gloire seule. Oui Seigneur, merci pour toutes tes grâces en Jésus-Christ encore. Amen.